lumière.
...9h, 9h30... Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
Nous sommes au début des années 640 de notre ère, 640 après Jésus-Christ, dans l'antique Carthage, capitale de l'exarchat du même nom, l'exarchat de Carthage, c'est-à-dire on est au nord de l'actuelle Tunisie, où règne donc l'exarque de Carthage, le représentant plénipotentiaire de l'empereur byzantin, car c'est encore l'empire byzantin au 7e siècle dans toute cette partie de l'Afrique, et l'exarque de Carthage s'appelle Grégoire. À cette époque, l'arrivée de cavaliers inconnus dans le sud de la Byzacène passe presque inaperçue. On voit bien qu'ils sont de plus en plus nombreux, ils arrivent, les autorités byzantines ont vu passer, pour tout vous dire, tellement de nomades qui arrivent du désert tripolitain, c'est-à-dire de la Libye, avec leurs familles, avec leurs troupeaux, qu'ils se disent qu'après tout, ce sont encore là des Maures, comme on les appelle alors, des Berbères. Cependant, ces cavaliers nouveaux, qui montent des bêtes superbes, ne sont pas accompagnés de leur famille. Ils sont seuls, à la différence de leurs prédécesseurs. Il n'y a pas de femme avec eux, pas d'enfants, pas de bagages. Leur langue est assez particulière, elle est sonore, gutturale. Elle n'est pas comprise du tout des Grecs et des Latins, mais elle n'est pas comprise non plus par les Berbères qui peuplent ces contrées montagneuses. Alors on se pose des questions, on se demande qui ils sont. Et bientôt, au palais de l'exarque, un certain nombre d'informations viennent corroborer des craintes. Les informations sont de plus en plus précises. Ces cavaliers, qui ont rançonné plusieurs grandes villes, sont des Arabes. Ils appartiennent à une véritable armée qui a déjà conquis l'Égypte et la Syrie. La Cyrénaïque et la Tripolitaine sont elles aussi tombées. Et déjà, les troupes de celui qui s'appelle Abdallah ibn Saad, le gouverneur d'Égypte, sont en train de marcher vers l'ouest. Ils sont en train de conquérir cette Ifriqiya pour citer le nom que les Arabes donnent à l'antique Africa, qui avait été tellement colonisée et qui avait été entièrement adoptée, si je puis dire, par l'Empire romain. Ces cavaliers arabes sont en train de transformer complètement le paysage politique, géopolitique du nord de l'Afrique.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Vous avez bien compris que nous sommes là à un moment charnière de l'histoire du Moyen-Orient et même du monde, ce début de 7e siècle, puisque l'islam, cette religion qui est née dans les sables de la péninsule arabique, a transformé des tribus nomades qui étaient divisées jusqu'ici en une espèce d'empire unifié et conquérant. En l'espace de quelques décennies seulement, cette nouvelle foi, qui est une foi très puissante, qui a été révélée au prophète Mahomet en 610, cette foi a donné naissance à une puissance qui est en train de dépasser largement les frontières de son Arabie natale, de ce creuset, de ce berceau de l'islam. Les cavaliers sont poussés par la foi et par l'espoir de bâtir un empire sous l'étendard de l'islam. Ce sont des guerriers arabes qui se confrontent à toutes les forces établies depuis des siècles. L'empire perse sassanide, qui va s'écrouler très rapidement, il faut dire qu'il n'était plus que, l'ombre de lui-même. Quant à l'empire byzantin, évidemment, dans un premier temps, il tente bien de résister, même parfois vigoureusement, il faut le dire, mais en quelques années, ce prestigieux empire romain d'Orient, parce que c'est ça ce qu'on appelle Byzance, c'est la partie orientale de l'Empire romain, l'Empire romain d'Occident s'est effondré en 476, mais l'Empire romain d'Orient s'est maintenu, c'est cet empire byzantin. Eh bien, cet empire, il est submergé par cette vague nouvelle qui est en train de conquérir peu à peu les territoires du Proche-Orient. L'islam unifie des peuples et des cultures diverses sous une même foi. L'islam transforme le visage du Moyen-Orient, la Syrie, la Mésopotamie, l'Égypte, la Libye en quelques décennies. Ces armées musulmanes très aguerries, qui sont très sûres de leur force, sont en train, à une vitesse folle, de conquérir donc un nouvel empire. Le regard du calife n'a pas tardé à se tourner vers l'ouest, vers cette fameuse Ifriqiya, vers cette terre méconnue, peuplée de tribus berbères. Sauf qu'à la différence des autres régions de l'Empire Omeyyade, la conquête de ces territoires va être nettement plus difficile. Alors pourquoi est-ce que cette conquête est difficile ? Eh bien parce qu'il y a là une résistance, c'est la féroce résistance des berbères. Et ces berbères, ils sont menés par une figure dont il faut bien dire qu'elle est quasi légendaire et qu'on ne croise d'ailleurs que rarement dans l'histoire. Je suis en train de vous parler de la reine berbère, de la Kaïna. Voilà des accents qu'on n'entend pas très souvent sur Radio Classique. L'ensemble Hesperion 21, en tout cas un certain nombre de ses musiciens sous la direction de Jordi Savall, interprétaient cet air traditionnel syrien Samaï Makam Bayati.
Vous écoutez Radio Classique.
C'est dans les chaînes de montagnes du nord de l'actuelle Algérie, dans les Aurès, que va se manifester la résistance des Berbères. Il y a eu un premier mouvement de résistance, d'ailleurs mené par le chef berbère Kousaïla, qui avait pris la tête d'une rébellion et qui d'ailleurs a, dans un premier temps, triomphé de l'armée arabe qui était en pleine conquête dans ces années 680. Cette fois, c'est donc sous le commandement d'une femme que la résistance à cette expansion arabe va s'incarner. La femme en question est surnommée la Kaïna, de son vrai nom Diya. Pour tout vous dire, on n'est pas tellement sûr des origines de cette reine berbère qui se perd dans les méandres de l'histoire. Elle est décrite par les auteurs arabes comme une prophétesse de confession juive, car certains voient en effet dans Kaïna le féminin de Kohen, qui signifie prêtre en hébreu bien sûr, et qui a peut-être été l'alliée des Byzantins. D'autres disent qu'elle était chrétienne. Était-elle juive, était-elle chrétienne ? La vérité, c'est qu'on n'en sait rien, pour être tout à fait précis. C'est à ses dons de voyance, plus même qu'à ses qualités guerrières, qu'est sensible la tradition qui la désigne toujours par son surnom arabe, donc la Kaïna, la devineresse. Elle est fille de la tribu des Djerawa, puissante tribu zénète qui occupait tout l'Aurès oriental. Elle est parvenue à unifier les tribus berbères sous son commandement et elle est devenue non seulement une prophétesse, vous l'aurez compris, une personne qui sentait, qui voyait l'avenir et qui pouvait réunir sous sa bannière des tribus très différentes, mais elle est devenue une véritable chef de guerre. Et devant l'ampleur du danger, le calife va désigner au début des années 680 un général syrien pour remettre de l'ordre dans toutes ces affaires de l'Ifriqiya qui ne se passent pas aussi bien que le reste. Le général syrien est nommé Hassan. En 698, c'est une bataille célèbre, la bataille de l'Oued Nini, à proximité d'une rivière qui s'appelle Nahr al-Bala, la rivière de l'affliction. Eh bien, au cours de cette bataille de l'Oued Nini, l'Achaïna va infliger une défaite à Hassan. Et c'est une défaite sévère. Et pour les Berbères, c'est une victoire retentissante qui leur redonne espoir parce qu'ils voient bien que les Arabes se replient, qu'ils laissent derrière eux un Maghreb qui, en tout cas pour un temps, paraît devoir demeurer hors de leur portée. Cette défaite, c'est un coup dur pour les conquérants qui comprennent qu'ils ne vont pas pouvoir soumettre le Maghreb aussi facilement qu'ils l'ont fait avec d'autres régions. La défaite de l'Oued Nini est si lourde en vérité que Hassan évacue, comme l'ont fait déjà trois de ses prédécesseurs en 40 ans, il évacue la totalité de l'Ifriqiya. Il va aller se réfugier le plus loin possible en Libye. Je cite Cyril Hayet dans l'article qu'il consacre à cette reine en guerre, la Kaïna, dans le numéro d'Historia qui est actuellement dans les kiosques. Je le cite. La Kaïna capture 80 de ses compagnons, il parle des compagnons d'Hassan, en particulier un certain Khalid ibn Yazid qu'elle décide d'adopter lors d'une cérémonie qui reproduit symboliquement l'allaitement. Le chroniqueur Al-Rakik, secrétaire de la dynastie qui dirigeait Kairouan au XIe siècle, décrit minutieusement la scène. La Kaïna étale sur ses seins un mélange de farine d'orge et d'huile qu'elle offre ensuite à ses deux fils et à Khalid, qui deviennent ainsi des frères. Ce récit factuel s'efface au profit d'anecdotes qui soulignent les pouvoirs magiques de la berbère, dont le surnom en arabe désigne d'ailleurs sa capacité à prédire l'avenir. Lorsque Khalid envoie à Hassan un message secret qu'il dissimule dans un pain, elle pressent la trahison. « Mes enfants, votre perte est dans un aliment », dira-t-elle. Alors que l'armée califale se rapproche, elle devine sa mort prochaine et confie à Khalid la protection de ses deux frères, conclut Cyril Hayet. Pour l'instant, nous n'en sommes pas tout à fait là. La Kaïna est maîtresse de la montagne. Elle va pratiquer une méthode bien connue de tous ceux qui ont essayé de résister à des invasions, quelles qu'elles aient pu être dans toutes les époques, c'est-à-dire la méthode de la terre brûlée. Il s'agit de priver les conquérants de tout ravitaillement, de tout butin. Mais évidemment, ça fait des dégâts, la terre brûlée, et ça vaut à la Kaïna l'opposition de nombreuses tribus qui vont déserter ses rangs au moment de la nouvelle offensive arabe. Et là, cette fois, pour la première fois depuis qu'ils arrivent en Ifriqiya, ça fait maintenant presque 40 ans que ça dure, hein, ces tentatives, ces vagues successives de cavaliers arabes, eh bien, pour la première fois, les Arabes n'ont pas à affronter une hostilité générale parce qu'il semble qu'un certain nombre des populations locales en aient assez de devoir se sacrifier pour empêcher l'invasion. Avant la rencontre décisive entre les forces de la Kaïna et celles d'Hassan, les dons de voyance de la reine berbère vont donc s'exercer une fois de plus. Elle sait que l'issue de la bataille sera funeste. Elle invite ses enfants à se rendre avant le combat à l'ennemi dans l'espoir de sauvegarder ce qui pourra l'être du pouvoir du clan. On pourrait peut-être essayer de gagner, se dit-elle, la sympathie de l'adversaire. Et comme elle l'a prévu, elle est vaincue cette fois. La coalition berbère se disloque et Hassan va pouvoir lancer ses escadrons à la poursuite de la guerrière qui devient à ce moment-là une fugitive. Sarka, un extrait de Ma patrie de Smetana. L'orchestre philharmonique tchèque était sous la direction de Jiří Beloalek.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
L'ultime combat semble avoir lieu sur le versant méridional des monts du Hodna. On n'est pas loin de la ville de Tarfa, au pied du Djebel Neshar. Et comme elle l'a prédit à la suite d'une vision qu'elle a eue, une de ses nombreuses visions, la Kaïna aura la tête tranchée, emportée pour être présentée au calife, comme cela se faisait, et son corps est jeté dans le puits qui porte son nom, le Bir al-Kaïna, le puits de la Kaïna. Pour tout vous dire, il existe dans la toponymie africaine des dizaines de Bir al-Kaïna, tant la légende de cette femme est restée ancrée, vivante, très, très forte dans le pays, qu'elle a, sans grande illusion au demeurant, tenté de soustraire à cette domination des cavaliers arabes qui arrivaient par vagues successives et incontrôlables et insurmontables. La mort de la Kaïna, on est aux alentours de l'an 700 environ, cette mort marque la fin de la résistance organisée des grandes confédérations berbères. Désormais, il y aura bien des luttes contre l'occupant arabe de ces territoires qui sont en train, ces arabes, de s'installer en Afrique du Nord. Mais cette lutte, elle ne sera plus que celle de tribus. Et les tribus, comme des dominos, on les voit tomber les unes après les autres et se soumettre aux arabes. D'ailleurs, 10 ans après la mort de la Kaïna, c'est un berbère, le berbère Tariq, qui, à la tête d'une armée berbère de 7000 hommes, franchira le détroit, le Djebel Tariq, hein, c'est Gibraltar, et commencera au nom de l'islam et du calife Omeyyade la conquête de la péninsule ibérique. Le monde berbère s'est soumis à l'autorité des califes de Damas. Alors, quand je dis ça, il s'y est soumis pour un temps du moins, puisqu'on verra constamment ressurgir des vagues de résistance et de développement de cette identité berbère qui n'a jamais accepté de mourir.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Et forcément, à travers les siècles, la figure de la Kaïna, sa légende vont grandir. Toute l'historiographie arabe déjà lui avait donné une forme mythique, mais la colonisation française à son tour va faire d'elle un mythe pour servir sa cause, puisque les Arabes insistaient sur la guerre sainte ayant conduit à chasser ou assimiler les infidèles du Maghreb, et bien les Français vont parler de la résistance de cette reine barbare à l'envahisseur arabe, bien sûr. Et le mythe de la Kaïna va être utilisé aussi durant la période coloniale pour opposés arabes et berbères. Des théories sont développées sur l'origine des berbères, affirmant que leurs ancêtres seraient des Gaulois, des Romains. On associe même à cette époque la Kaïna à Jeanne d'Arc, afin d'assimiler la sainteté et le dévouement patriotique incarnés par les deux femmes. C'est Henri Aucapitaine, un militaire et naturaliste, qui dans un ouvrage intitulé « Le pays et la société kabyle » parle des berbères comme étant, je cite, « de tièdes sectateurs de Mahomet » portés vers nous par leur caractère et leurs mœurs, leur constitution est républicaine, leur gouvernement démocratique, leur village avec leur toiture rouge ressemble à nos bourgs de France. Dans 100 ans, ils seront français. C'était aussi un des projets qui avait été développé, bien entendu. Plus tard, la figure de la Kaïna sera utilisée par les berbères pour lutter contre la politique d'arabisation de l'Algérie. Alors là, on parle de l'époque qui a suivi l'indépendance de 1962. Cette récupération de la Kaïna a permis de rappeler que l'Afrique du Nord, avant d'être arabe, avait été berbère, bien entendu. Et plus récemment, c'est la dimension féministe du mythe qui a été mise en avant. En plus de rappeler qu'il s'agissait d'une chef de guerre, on a voulu mettre en avant le caractère indomptable, le caractère très libre de cette femme dont, et c'est Gisèle Halimi qui le dit cette fois, dont le destin c'est de choisir, d'ordonner, de prendre. Et Gisèle Halimi ajoutait, sur elle, l'autorité d'un homme n'a jamais eu de prise, elle répondait à un double destin et nul ne lui montrait la voie. Il y a eu beaucoup d'écrits sur la Kaïna. On a essayé constamment de la récupérer dans un sens ou dans l'autre. Je cite pour conclure de nouveau Cyril Hayet dans Historia. Au XIVe siècle, l'historien Ibn Khaldoun lui avait trouvé un nom, Diya, une tribu, les Jarawa et une généalogie. Au XXe siècle, la littérature coloniale fidèle, une Jeanne d'Arc berbère luttant contre l'occupant arabe, alors que le dramaturge algérien Kateb Yassine mit en scène sa défense des peuples opprimés. les Juifs d'origine maghrébine croient savoir qu'elle partageait la même religion qu'eux et Gisèle Halimi saluait en elle une icône féministe, ça nous venons de le voir. On peut comprendre qu'une figure comme la Kaïna ait pu enflammer les imaginations et être récupérée, ou en tout cas faire l'objet de tentatives de récupération par tous ceux qui avaient intérêt à appuyer, à développer, à faire valoir leur cause dans ce Maghreb si composite et si complexe.
Vous écoutez Radio Classique.
Les Berbères, 3000 ans de fierté, c'est donc le titre de ce dossier d'Historia. Historia qui est actuellement dans les kiosques. Merci beaucoup à Gaspard Lemarinier d'avoir fait revivre la figure, vous l'aurez compris, en partie mythique de la Kaïna. Il est tout à fait mythique, lui, il est même légendaire. C'est Christian Morin. Bonjour Christian.
Mais joli portrait. Bonjour Franck et bonjour à tous et à toutes. Joli portrait de cette femme.
Joli portrait imaginaire, réel, bien sûr.
Oui, bien sûr. Mais là, c'est très intéressant et ça permet, en lisant Historia, de découvrir un autre aspect de cette Afrique du Nord tant évoquée au travers de l'histoire. J'en profite pour dire que grâce au trio classique, notre jeu de tous classiques de 9h30 à midi chaque semaine, eh bien, de temps en temps, vous avez la possibilité aussi de gagner des abonnements à Historia.
Ça, voilà. c'est un très bon cadeau, je trouve. Bravo.
Oui, tout à fait. Mais d'heureuses initiatives.
N'est-ce pas ?
Ainsi que connaissance des arts, ça fait partie de la famille.
Mais oui.
Bien, mon cher Franck, cet après-midi, bien qu'il n'ait pas été décapité, vous allez nous parler de l'histoire inouïe de la tête de Richelieu.
Ah oui, ça fait partie, vous savez, de ces objets, c'est pas tout à fait un objet, mais de ces reliques, pour être plus juste, qui défient les siècles. C'était assez passionnant.
Un petit peu à la star de la tête d'Henri IV.
Oui, tout à fait. Oui,
c'est dans cet esprit-là. Bien, 14h, Franck Ferrand. 8h-5 avec David Abiker, le point du jour demain. Et puis, à 9h, comme chaque jour, du lundi au vendredi, vous retrouvez Franck, qui, Franck Ferrand, raconte, bien sûr, l'histoire. Merci Franck, bonne journée.